Moi, je joue Doda Conrad. Walter Damrosch, Aaron Copland, Virgil Thompson.
Ah non. Virgil Thompson, c'est moi. Tu me le laisses. Pareil pour Igor Markevitch.
Je continue. Jean Français, Elliot Carter.
Non, Elliot Carter, c'est moi. Pourquoi tu changes?
Lennox Berkeley, Narcisse Bonnet, Piotr Moss.
Maurice Gendron, Dominique Merlet, Jay Gottlieb, Noël Lee...
Léonard Bernstein.
Je suis perdu.
Ça commence par quoi, le portrait de Nadia Boulanger?
Par un silence.
Par une voiture de pompiers qui passe. Une porte qui claque.
Un bruit de pas. Le tic-tac de la montre, là sur la gauche.
Le ventre du... monsieur...
Silence.
Détente.
La basse qui chante.
Dissonance à sol majeur.
Un passage, c'est un conduit.
Mais avec un tout petit peu plus de lumière.
Consonance.
Et pour aller où?
C'est comme des questions sans réponse.
Expression de tendresse.
Élan de tendresse.
Expression de tendresse, élan de tendresse, tout ça, c'est faux. C'est ce que la musique elle-même est. Je n'ai pas 5, 10, 40 ans. Je n'ai pas 80 ans, je suis tout cela à la fois. Toute petite, je ne pouvais pas supporter la moindre note de musique. Je hurlais. Je me trouvais mal. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Votre fille est malade? Non. Elle ne peut pas supporter la musique. Mon père avait de grands rideaux pour donner ses leçons et ne pas déranger sa malheureuse pauvre folle d'enfant. Son piano, je ne l'avais jamais approché. C'était un monstre qui me terrorisait. Et puis un jour, j'entends les pompiers qui passent dans la rue. J'ai voulu retrouver les notes. Depuis ce jour-là, la musique ne m'a plus jamais quittée. La musique toute la journée. Pam, 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 pam. J'ai beaucoup aimé mes professeurs. J'aimerais témoigner de ma gratitude pour Forêt. Mais comment mettre en forme pour témoigner d'une présence, de l'influence de quelqu'un? Il se passait quelque chose dans le silence qui nous rendait plus vivants. C'est ça, Forêt. Maintenant, où résident les vrais sentiments? Mettre en forme quoi? On ne pourrait pas mettre un tout petit peu plus de lumière? Quand je ne vois pas, je n'ai pas de mémoire. Toutes ces années que j'ai passées dans la classe de Forêt, jamais il n'a parlé de lui, ni joué une note de sa musique, pas un mot, pas une note. Il avait l'air de rêver, d'être autre part. Parfois, nous nous disions, il n'a pas beaucoup écouté aujourd'hui. Puis les années ont passé. Un jour, bien plus tard, je suis allée lui rendre visite rue des Vignes, lui déjà malade, déjà très âgé. Et au milieu de notre conversation...
Je ne suis pas sûr que vous ayez bien fait d'abandonner la composition.
Mon cher maître, moi j'en suis sûre, je faisais de la musique inutile. Je suis assez impitoyable avec les autres, encore faut-il que je le sois avec moi-même. Il se lève, va au piano et me joue une partie d'un exercice que j'avais écrit pour la classe à l'âge de 14 ou 15 ans, dans lequel une variation était peut-être un tout petit peu moins inutile que les autres.
Il y avait tout de même quelque chose là-dedans.
Moi, je l'ai embrassé. Comment vous le savez par cœur? Il écoutait tout. Il se souvenait de tout.
Un portrait de Nadia peut tromper.
Toujours un peu trop de raideur.
D'austérité.
Mon juge et mon témoin a toujours été maman. Parce qu'elle avait le courage de voir ce que j'étais et ce que je n'étais pas. Ma mère était une vraie artiste, bien qu'elle n'ait jamais pensé créer quoi que ce soit. Quand je pense à elle, qui est morte depuis longtemps, je la vois. Elle est avec moi. Non, ce n'est pas une superstition. Elle est avec moi. Le temps n'a pas touché à ça. Si nous emmenons le passé avec nous, il reste présent. Il est clair, le présent. Tout ce que je peux faire d'à peu près propre aujourd'hui, je le dois à son influence. Elle savait exiger, non pas un peu d'attention, mais toute la tension possible. Nous sortions du conservatoire, et moi, pas tellement tranquille que ça. J'avais été première, mais j'étais souvent première. Mes professeurs m'entouraient d'une espèce de légende venue de mon père, qui avait laissé chez chacun un souvenir extraordinaire, enfin, un ensemble de choses qui fait qu'on me donnait des vertus que je n'avais pas, des pouvoirs que je n'avais pas. Mais ma mère ne s'y est jamais trompée. Je pouvais être première, cela lui était complètement indifférent. Et ce jour-là, elle m'a dit, « Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais dis-moi, est-ce que tu estimes que tu as fait tout ce que tu pouvais ?» Et quand elle a dit ce « tout », j'ai compris. Et je le comprends encore aujourd'hui. Que je n'ai jamais fait tout ce que je pouvais.
20 ans. Sa rencontre avec Raoul Pugnot lui révèle ce que pourrait être sa carrière. Ce qu'elle pense être sa vocation. Compositeur. Elle met dans cette vocation toutes ses espérances. Elle s'épanouit dans la réalisation de ce rêve. Puis il se brise. Avec la mort de Pugnot. Nadia connaît les épreuves qui remettent en question la destinée. Sa jeune sœur Lily, qui prend la décision de se présenter au concours de Rome, remporte le premier prix à sa première tentative, là où Nadia a échoué. après tant de travail acharné. L'œuvre de Lily la confronte avec le génie, à côté duquel son talent à elle, Nadia Boulanger, n'est que du talent.
Ce n'est qu'au moment où on essaye d'approcher ce tout qu'il peut y avoir une joie intérieure, en dépit de toutes les tristesses, de tous les deuils.
Il y a aussi des événements qui la déconcertent. Péléas et Mélisande, le miracle de Buciste, Igor Stravinsky et son sacre du printemps. Well, qu'est-ce que vous faites cet été ?
Walter, comme d'habitude, je vais chez nous à la campagne.
Non, pas cet été.
Mais pourquoi ? J'irai là, comme tous les ans.
Vous serez à Fontainebleau.
Et pourquoi Fontainebleau ? Et me voilà arrivée à Fontainebleau pour donner des cours d'harmonie et de contrepoint à des élèves américains qui ne savent que dire bonjour, au revoir. C'est ainsi que fut fondé le Conservatoire américain de Fontainebleau. Et me voilà embarquée.
Moi, j'ai fait mes études à Harvard et j'ai obtenu une bourse qui me donnait la possibilité de passer un an à Paris avec le professeur de mon choix. J'ai choisi Nadia Boulanger.
Virgil Thompson.
Elle a été dans un conservatoire américain à Fontainebleau. C'est là que je l'ai rencontrée. Elle avait la conviction que la musique américaine était sur le point de prendre son envol, comme la musique russe avait pris sien vers 1840. Elle m'a donné la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Au commencement, nous n'étions que deux, Copland et moi. Et puis tout le monde, tous les Américains sont venus à Fontainebleau. Il y a peut-être que John Cage qui n'y a pas été.
J'avais 21 ans, j'avais fini mes études musicales, je croyais que je savais tout. J'entends quand même le conseil de rencontrer une certaine Nadia Boulanger à Paris. Une femme ? J'étais plutôt méfiant à l'idée qu'une femme m'enseigne quoi que ce soit. J'ai tout de même traversé l'Atlantique. Je me suis rendu rue Ballu. Au bout de quelques secondes, j'ai compris que je ne savais rien.
Lui, attiré par le jazz, la syncope, le ragtime, lui si profondément américain, il a fait l'amalgame avec la finesse et la sensualité française et c'est devenu du Copland. Moi, je me souviens de ma découverte de Paris. Je suis arrivé aux environs de minuit à la gare Saint-Lazare. J'étais avec des copains. Et je voyais Paris comme le déroulement d'un rêve que j'avais déjà rêvé. On a pris un autobus à cheval. On a vu la place de la Concorde, la chambre des députés, parce qu'on allait rive gauche pour descendre dans une maison d'étudiants rue de Vaugirard. Et j'avais la sensation d'avoir déjà vécu tout ça. On dit que ça arrive quelquefois dans la vie, à l'occasion d'une émotion très forte.
Dans les années 20, c'est à Paris que la musique nouvelle est la plus originale. Stravinsky venait manger chez Nadia, j'ai fait sa connaissance. Il y avait aussi Manuel Desfaillat.
Arthur Honegger.
Francis Poulenc.
Darius Milhaud.
Ravel.
Dans la classe de Forêt, nous faisions tous du contrepoint traditionnel. Moi, j'étais toute petite, ça me paraissait naturel, et j'en faisais. Ça ne m'amusait pas tous les jours, mais j'en faisais. Et Ravel en faisait. Ce n'est que des années plus tard que j'ai réalisé qu'il avait déjà écrit son quatuor. Je lui ai demandé pourquoi il étudiait le contrepoint au conservatoire.
Il faut bien nettoyer la maison de temps en temps, j'en fais toujours.
Chez Ravel, la fabrication du mécanisme, le jeu sur le matériau faisait déjà partie de l'œuvre. J'ai connu Ravel, beaucoup, mais pas du tout. Malheureusement, le lien qui crée la communication ne s'est jamais établi.
Je suis resté à Paris jusqu'en 1930. Elle m'a mis à l'aise devant le papier à musique. C'était plutôt une belle femme. Elle devait avoir 40 ans. Elle avait une chair tendre.
En 1925, un grand chef d'orchestre américain, Walter Damrosch, l'a invité à venir jouer de l'orgue à New York. J'étais son élève à ce moment-là, tout à fait inconnu.
Copland, est-ce que cela vous intéresse de composer une œuvre pour orgue et orchestre? Si vous pouvez être prêt pour le 1er septembre, je l'exécuterai à New York et à Boston.
Nous arrivons à New York.
Seulement soyez prêt pour le 1er septembre, pas pour le 2.
Le 1er septembre, elle a eu la partition finie, copiée, tout en ordre. À la fin du concert, Damrosch se tourne vers le public et dit « Mesdames, messieurs, si un homme de 23 ans a pu écrire une œuvre comme celle-là, il peut, avant 30 ans, avoir assassiné ses parents. »
Moitié riant, moitié sérieux. Naturellement, réaction. Grande agitation dans le public. Mais la réputation de Copland était faite. Personne ne peut prétendre que les 220 cantates de Bach sont toutes des chefs-d'œuvre. Le niveau de métier est tel qu'elles sont plutôt dans l'ordre des chefs-d'œuvre que des médiocrités. Mais Bach n'a pas commencé la Passion selon saint Matthieu en se disant « Là, maintenant, je vais écrire un chef-d'œuvre. » Il a essayé d'être prêt pour le jour dit.
Quand Nadia Boulanger m'a pris dans sa classe, mes condisciples venaient du monde entier. Ils étaient plus âgés que moi. Il venait pour un stage de perfectionnement.
Je me souviens du premier jour où petit Markevitch est entré dans ma classe. Il devait avoir environ 14-15 ans. Je dis à mes élèves, après leur avoir joué un contrepoint à quatre parties, pouvez-vous le rejouer?
Il n'en est pas question, nous ne l'avons entendu qu'une seule fois.
Le petit Markevitch se lève.
Si vous permettez, mademoiselle, j'aimerais bien l'essayer.
Mais ce n'est pas possible! Tu n'as jamais fait de contrepoint. Il s'est mis au piano. Il a joué tout le contrepoint de mémoire.
On avait l'impression que jusque-là, on avait écouté les cantates de Bach à la surface des choses. Et que grâce à elles, on pénétrait dedans. Et que tout cet organisme était mis à nu devant nous. On avait l'impression qu'une œuvre devenait profonde comme la mer. Toutes les œuvres qu'on étudiait avec elle prenaient une dimension de plus. Cet œil, cette oreille, absolument remarquable. Je crois qu'elle enseignait la musique, tout simplement.
Est difficile aussi à expliquer.
Elle ne regarde personne.
La décision de Markevitch est du même ordre.
Non. Chez moi, c'est la conscience que ma musique était inutile. Markevitch ne peut pas croire que sa musique était inutile. Psaume, Ica sont des partitions majeures. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est pour moi une grande tragédie. On aurait tout à gagner à mieux connaître Markevitch. On le connaît. On lui fait des triomphes comme chef d'orchestre. C'est l'ignorance totale.
Ça n'a pas d'importance. Il est Markevitch.
Avec elle, j'ai découvert les mystères de la construction sonore. Si plus tard, dans mes propres compositions, j'ai toujours eu le goût pour une architecture claire et solide, je crois que c'est vraiment à elle que je le dois. Et puis, elle m'a fait découvrir des musiques qui m'étaient inconnues. Pour nos cours, elle venait avec une partition de Hindemith ou la dernière œuvre de Stravinsky et nous les analysions ensemble. Des horizons s'ouvraient. Quand elle m'a fait découvrir le concerto 38 de Hindemith, je dormais avec la partition et je rallumais la lumière plusieurs fois par nuit pour me souvenir de ce qu'elle m'en avait dit. Je peux dire aujourd'hui que mes premières œuvres pour orchestre, que j'ai composées vers l'âge de 15 ans, étaient sous l'influence directe de ces musiciens que j'avais découverts grâce à Nadia Boulanger. La presse ne se priva pas de me le faire remarquer d'ailleurs. Ceci est typique d'aujourd'hui. Si nos critiques avaient vécu au temps des évangiles, ne doutez pas qu'ils auraient reproché à Saint Jean ou Saint Luc d'être influencés par Jésus. Eh bien non, j'étais un disciple, pas un voleur. Ses mains étaient belles et semblaient comprendre la musique plus vite que Nadia elle-même. Ses mains savaient tout faire, transposer, déchiffrer, deviner. Je me suis finalement consacré au travail de la direction d'orchestre. J'ai abandonné la composition. Et le piano, je m'en sers uniquement comme un instrument de travail pendant les répétitions d'opéra avec les chanteurs. J'étais gêné de diriger mes propres œuvres. J'étais mauvais. J'avais l'impression que toutes mes indications aux musiciens étaient autant de services que les musiciens me rendaient. Je n'exigeais plus rien d'eux. C'était abominable. Et apprendre à diriger est un entraînement qui m'a demandé beaucoup de temps. La dissociation des bras, par exemple. Diriger avec les deux bras qui font la même chose, en même temps, tout le monde peut le faire. Mais savoir indiquer le tempo avec le bras droit et faire vivre les nuances du morceau avec le bras gauche, cela demande beaucoup d'entraînement.
On parle beaucoup de réforme de l'enseignement. J'ignore celle qu'il faudrait faire, mais je sais qu'il y en a une que je voudrais faire. Qu'est-ce que tu penses, mon ami? Que l'ami à qui je parle pense quelque chose. Quelque chose de fou, d'intelligent, d'étrange, peu importe. Mais qu'ils sachent l'exprimer. Il y a des élèves qui répondent même faux parce qu'ils ont pensé quelque chose. Et puis d'autres qui balbutient, qui essayent de savoir ce que je voudrais. Est-ce bien ce qu'il faudrait? Mais je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que tu veux. Tant que je ne sais pas ce que tu veux, tu n'existes pas musicalement pour moi. Vous êtes doués. Vous êtes intelligent, vous avez de la technique. Mais si vous n'avez pas de caractère, tout est perdu. À un élève qui ne travaille pas, je lui dis, je ne suis pas là pour vous faire travailler. Si vous ne voulez pas travailler, ne travaillez pas, moi je m'en moque. Je ne m'intéresse qu'au moment où vous vivez. À ce moment-là, j'essaye de vivre avec vous et de vous aider à vivre vous-même. Encore faut-il être soi-même. Être soi-même, c'est déjà génial. Une œuvre académique peut être parfaitement bien faite. Vous la connaissez, vous l'admirez, mais vous ne pouvez pas l'aimer parce qu'elle ne contient pas cet élément que je ne peux pas définir, qui fait la différence entre une musique bien faite et une pauvre mélodie de Schubert, si simple qu'il ne s'y trouve rien sinon l'innocence. et le mouvement spontané, irrésistible, qui fait que c'est un chef-d'œuvre. Je connais toutes les notes. Do, mi, sol, ré, mes doubles croches. Je peux tout analyser. Mais une page, une ligne, une mesure de Schubert, non. Je ne sais pas.
Déjà eu de très grands succès d'école. Je lui dis, chante-moi le concerto de Mendelssohn, le mouvement lent. Maintenant, chante-moi la basse. Mais je ne la connais pas. Eh bien, nous allons la retrouver. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a là? Après que la basse fut toute reconstituée, il savait sur quoi il reposait. Il n'était plus sur du vide. À quelqu'un qui vient travailler, je pose la question. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux entendre? Est-ce que tu peux retenir? Si j'ai obtenu cela, c'est déjà bien. Mais donner la grande philosophie, ça, je n'y prétends pas.
Je me souviens d'une phrase qu'elle disait. Plus je vieillis, plus je trouve une œuvre belle, plus je suis incapable de dire pourquoi.
Jean Français.
On m'a souvent demandé comment pouvait s'expliquer la gloire de Nadia Boulanger comme professeur. Pourquoi elle a réussi à aider de jeunes compositeurs à trouver un langage musical qui leur soit propre? Quelle méthode utilisait-elle? Mon sentiment est qu'elle n'utilisait justement aucune méthode. Elle n'avait recours à aucun système particulier autre que l'enseignement conventionnel de l'harmonie, du contrepoint, de l'orchestration. Qu'elle se méfiait des systèmes pour ce qui est de la composition à proprement parler. En fait, c'était la force de sa personnalité et l'exemple de sa vie entièrement concentrée qui exerçait un effet si stimulant sur nous. Elle était une inspiratrice. Mais l'inspiration consistait à nous faire prendre conscience de la difficulté d'acquérir la technique musicale, à nous faire sentir qu'il n'était point d'efforts trop grands qui nous permettent de venir à bout des difficultés.
À chaque note que j'écris, je pense... Qu'en penserait-elle?
Vous savez que Nadia m'a fait aimer la musique de Bach.
Elliot Carter.
Je suis venu à Paris en 1932 parce qu'en Amérique, il n'y avait personne qui enseignait la musique contemporaine. J'avais une leçon particulière par semaine. On a chanté presque toutes les cantates de Bach à la rue Ballue chez elle. Chaque mercredi, on chantait 3 cantates. En 3 ans, on en a chanté pas mal. Donc avec elle, j'ai changé d'avis sur la musique d'autrefois. J'ai beaucoup appris Beethoven. Parfois, elle téléphonait à plusieurs de ses élèves pour que nous venions marcher avec elle au milieu de la nuit. Elle nous racontait des tas d'histoires.
Oh, je me souviens l'histoire de Metternich.
Sa femme lui avait loué un studio dans lequel elle l'enfermait à double tour pour qu'il travaille.
Quand il est parti, on s'est aperçu
qu'il n'avait fait que des cocottes en papier.
C'était bizarre de nous avoir raconté ça à nous qui étions ses élèves. Elle était fantasque. Elle disait parfois des choses effrayantes. On ne savait jamais ce qu'elle allait dire.
Quelle était sa vie?
Ça, il ne nous serait jamais venu à l'esprit de poser de questions sur ce sujet.
Quand on sortait de chez elle, on se disait « qu'est-ce qu'elle m'a dit ?» Mais quand on était à ses côtés, on ne pouvait pas résister. Plusieurs fois, corrigeant mes exercices de contrepoint pendant la première année, je n'ai rien fait d'autre. Elle soulignait une erreur et inscrivait dans la marge
« très musical ». Mais défendu.
À l'époque, je trouvais difficile à avaler que ce qui était très musical fût défendu. Cette remarque était typique de son esprit et de son humour.
Dans la classe de contrepoint, elle corrigeait non seulement les fautes d'harmonie, mais nous devions également soigner notre écriture. Quand notre écriture était satisfaisante, elle nous demandait de venir copier pour elle des cantates de Bach qui n'étaient pas encore éditées. Elle nous demandait de passer à 11h du soir après les cours, elle nous offrait du whisky, et jusqu'à 4h du matin, nous copions. J'ai beaucoup appris avec elle. Pendant les cours, elle trouvait de la musique. Elle nous montrait les solutions que Mozart avait trouvées à des problèmes que nous rencontrions dans nos propres compositions. C'est très fort. Elle était stricte dans un sens, elle était libre dans un autre.
Cette musique est très frappante.
Ah, là, elle parle de ma musique. Je crois qu'elle n'aimait pas beaucoup ma musique. Des années plus tard, quand on a donné mon premier quatuor...
Dis donc, Carter, je n'aurais jamais cru que vous alliez écrire une chose pareille.
Elle disait qu'elle aimait la musique de Jean Français. Nous n'aimions pas trop ça. On pouvait le dire. Discuter avec elle, c'était un peu difficile, mais si on avait le courage, on pouvait le faire. Elle aimait Poulenc, beaucoup. La musique de Poulenc était très éclectique. Elle n'aimait pas trop Arthur Honegger. Elle nous disait que lorsqu'Honegger venait avec sa petite fille lui apporter des partitions, elle préférait jouer avec l'enfant. Elle connaissait la musique contemporaine très bien. En 1930, elle connaissait le Sacre du printemps presque par cœur. À l'époque, il n'y avait personne qui était capable de faire ça, à part Schoenberg ou les Viennois. Un jour, j'ai apporté à la classe de contrepoint une partition de musique contemporaine très compliquée. Elle a joué ça comme pour un concert. Et puis elle a dit, en parlant du compositeur...
S'il avait changé cette note-là et celle-là, ça aurait été mieux.
Je crois qu'elle avait raison. Une période où elle n'arrivait pas à dormir, elle m'a demandé, apportez-moi quelque chose qui m'occupera.
Quelque chose qui m'amusera.
Je lui ai apporté ma partition la plus difficile, le concerto pour double clavecin. Elle a été emballée.
Markievicz était un de ceux dont la personnalité l'avait dépassé. Lui et Lipati s'étaient liés d'une amitié dans laquelle elle-même venait se fondre. Elle était fascinée par leur génie respectif. Dino Lipati, à la fin des années 30, était venu à elle. Il lui avait été envoyé par George Enesco. D'emblée, elle avait reconnu son impuissance à faire quoi que ce soit pour ce jeune prodige roumain. Elle avait compris qui il était. Quand on lui a annoncé la mort de Lipati, ça s'est passé dans un moment de sa vie où elle était toute nue. Je me trouvais rue Ballue quand on lui a annoncé. Elle n'a pas dit un mot. Elle a mis sur l'électrophone le dernier disque de Lipati, la Sicilienne de Bach. Elle est allée vers la fenêtre. Il pleuvait, le jour était tombé. Elle regardait par la fenêtre.
C'était très grave, la mort de Lipati.
Lipati, je crois me souvenir que Georges Enescu m'avait écrit à son sujet. Et c'est Alfred Cortot qui me l'a envoyé. Comme c'est Alfred Cortot qui m'a envoyé Igor Markevitch. Quand j'ai vu ce don, cette musicalité frémissante et maîtresse d'elle-même, j'ai été conquise. Aussi par sa nature, si généreuse, si sérieuse. Lipati était un ange sur terre. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'était Dinou Lipati. Noble, profond, gai. Jusqu'à la mort, il savait que le délai était là. Un délai sans rémission. C'était pour lui très dur de partir. Mais en même temps, il était prêt. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il était le type même du musicien complet. Quand on écoute ses disques, on oublie toute espèce de maladie pour nous souvenir du rayonnement qu'il exerçait sur son piano, sur ses auditeurs, sur lui-même. On oublie l'homme qui luttait contre la maladie. Quand on l'écoute, c'est la vie qui triomphe.
Le choc affreux de la mort de Lipati me laisse très frappé. Et je voudrais trouver dans le silence la paix qu'il faut atteindre pour comprendre le message. Quel désastre que sa disparition.
Quel désastre que sa disparition. Quelle clarté il nous laisse. Il n'y a jamais eu de haine autour de Lipati. Il était désarmant de faiblesse.
Je n'ai jamais été élève de Nadia Boulanger. Mais j'ai fait beaucoup de musique avec elle.
Maurice Gendron.
Elle en a marqué plus d'un. Lipati.
Copland.
Markevitch.
Jean Français.
Bernstein.
Jamais rencontré un être aussi authentiquement musicien, aussi honnêtement musicien. Quand elle disait à un élève...
Je n'ai pas le temps de lire votre symphonie maintenant, revenez demain.
Le lendemain, elle se mettait au piano sans la partition.
À ce moment-là, vous proposez cet accord que vous orchestrez de cette façon, moi je vous suggère cela.
Et elle le lui jouait. C'est un cas de mémoire extraordinaire.
J'étais terriblement impressionné. Je venais d'Espagne.
Narcisse Bonnet.
Nadia Boulanger était pour moi comme un personnage mythique. Elle avait une soixantaine d'années, peut-être. Elle a organisé mes études. Je la voyais tous les jours. Le lundi, rue Ballu.
Rue Ballu, appartement plutôt mal fichu, très sombre, éclairé toujours par des lampes électriques.
Dominique Merlet.
Elle avait une sacoche de 15 kilos pleine de partitions. Quelquefois, elle venait en voiture, c'était un danger public. Le mardi, j'avais un cours particulier à 8h30, rue Ballu.
Le salon, l'orgue et les deux pianos sur lesquels elle travaillait toute la journée avec ses élèves.
Rue Ballu.
Le mercredi, le fameux cours de cantate, rue Ballu.
Rue Ballu, elle était très à cheval sur la maîtrise technique. Il y avait une certaine discipline à acquérir pour faire partie de la classe d'ensemble.
Le jeudi, un autre cours particulier à 8h30.
Rubalu. Rubalu, il fallait apprendre les marches d'harmonie par cœur en jouant trois voix et en chantant la quatrième. Il y avait une certaine gymnastique à acquérir. De toute façon, un musicien sans technique était pour elle impensable. Donc pendant un an, elle m'a pris à part avant de m'intégrer dans sa classe d'ensemble en 1954.
Rubalu. Le vendredi, un cours.
Rubalu.
Non. Au conservatoire. Et à 10h moins le quart, on se précipitait dans la vieille Hotchkiss pour être à 10h à l'école normale.
Elle conduisait vraiment d'une manière aberrante.
Quelquefois, je la voyais le samedi.
Où ça?
Je l'accompagnais.
Rubalu.
Non, au concert. Il y avait de la sévérité et de l'émotivité.
Des entraînements très difficiles. Parfois, elle nous mettait sur le piano une cantate de Bach et vas-y, des chiffres. Dans une cantate, tous les instruments jouent simultanément et comme on n'a que 10 doigts, on devait immédiatement savoir ce à quoi on renonçait. Je travaillais le 13e nocturne de Fauré. Elle était très à cheval sur la sobriété, la retenue. Il ne s'agissait pas de faire trop d'effets, de roues bateaux, pas pleurnichard, non. Il fallait que tout coule comme de l'eau, naturellement, sans accélération. C'était hiératique, extrêmement réservé, une grande concentration. C'était magnifique comme conception. Le mercredi, rue Balu, très encombrée, très intense, très concentrée, elle aimait bien poser des colles. Personne ne répondait, ça l'irritait. Ah, ça, elle se mettait en colère, oui. Et si elle entendait quelqu'un jouer un bac et faire des accents sur les premiers temps, alors là, c'était rédhibitoire. De temps en temps, elle avait le sens de l'humour. Il y avait des choses qui la mettaient en joie. Elle riait franchement. C'est que je lui dois beaucoup. Beaucoup. Le rythme. Il fallait toujours que le rythme rebondisse. Il ne fallait jamais s'apesantir sur les temps forts. Et l'on retrouve ça chez tous les musiciens qui ont été ses élèves. Dinoulis Paty, Igor Markevitch, ce souci de faire vivre le rythme par le rebondissement, toujours.
Elle arrivait au conservatoire d'un pas martial, avec sa grosse serviette. Elle montait l'escalier 4 à 4, elle entrait dans la classe, et on travaillait. 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 Mais en prenant le temps, en détaillant tout ce qu'il fallait, on avait l'impression que l'heure n'existait pas. Et tout à coup, elle pliait bagage. Elle rangeait ses affaires dans sa sacoche et elle fonçait. Il fallait courir derrière elle si on avait quelque chose à lui dire. Elle dévalait l'escalier en regardant droit devant elle. C'était très difficile de lui parler à ce moment-là. Le cours était fini.
Je file, autre chose m'attend.
Je l'ai connue sous un aspect plus doux que beaucoup d'autres.
Moi aussi, j'ai été élève de Nadia Boulanger. Mais pas comme touriste, hein. J'ai travaillé avec elle pendant des années. J'ai eu le régime au complet.
Jack Gottlieb.
Le régime au complet, c'est transposer des mélodies.
Harmoniser des bas chiffrés.
C'est diriger.
Analyser.
Analyser du Boulez.
Du Monteverdi.
Du Xenakis.
Du Stravinsky.
Du Bach. Toutes les cantates de Bach. Aller à la découverte de tout le répertoire. Je pourrais dire que je retiens de Nadia Boulanger sa flamme,
sa passion,
son amour pour la musique,
sa vitalité, mais on pourrait dire ça de tous les professeurs du monde entier. Non, ce que je retiens de Nadia Boulanger, c'est du concret. Comment rebondir sur une phrase musicale. Voilà à quoi je pense chaque jour de ma vie. Comment jouer une phrase musicale. Les valeurs, les petites valeurs. Dinoulis Paty, qui a été son élève, l'a dit. Ce que je retiens de Nadia Boulanger, c'est ça. Comment rebondir sur les phrases musicales, ne pas mourir sur les temps forts, varier le débit. Ça, c'est une grande leçon. Et puis, je me souviens de ma première rencontre, de mon premier cours. J'avais 12 ans. J'ai fondu en sanglots.
Ben, qu'est-ce qui va pas, mon petit?
Mais c'est pas que ça va pas, c'est que ça va très bien au contraire, c'est que ça va tellement bien, c'est que c'est tellement parfait, c'est que c'est tellement ça qu'il me faut, que du travail en profondeur. Elle connaissait chaque note de Stravinsky d'une manière intime.
Tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé.
1976. Elle était déjà une légende. Elle m'a appris une certaine philosophie d'être un artiste par rapport à Dieu.
Piotr Moss.
À la nature. Je suis arrivé à Paris, j'étais déjà un compositeur formé.
Avec Nadia, nous écoutions ma musique. Elle ne voyait déjà plus à ce moment-là, mais rien qu'à l'écoute, elle arrivait à faire des observations. On lui jouait donc l'œuvre au piano, ce qui n'était pas évident. Et elle arrivait à reconstruire l'œuvre à partir des bribes qu'on lui présentait. Ah, quelquefois, elle me donnait des grands coups comme ça. Ah non, ça c'est horrible. Ce ne sont pas des accords, ce sont des paquets de notes. Ou d'autres choses comme ça. Le souvenir que je garde du travail avec Nadia Boulanger, ah, c'est plutôt, comment dirais-je, cette manière d'être artisan et non pas artiste. Parce que artiste serait un don de Dieu, elle disait. Mais pour remercier Dieu ou la nature de ce don, on se doit d'être artisan et travailler. Quand je travaille bien, je suis fier de moi. Je ne pense jamais que je suis né artiste. C'est ce que Nadia m'a appris. Et au fond, ça me rend heureux.
Jamais. Sur la tendresse dans l'œuvre de Stravinsky. Et quand il jouait hier soir à la radio ce duo concertant, je me disais, mais il n'y a qu'à écouter comment il attaque cet accord pour comprendre ce que c'est que le péremptoire de la personnalité. Vous pouvez regarder, c'est bouleversant. 200 pages de partition, il n'y a pas une barre de mesure moins bien tirée. Une clé de sol moins belle. Alors comment il faisait ses clés? Nous on fait des clés comme des malheureux, tiki 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 tiki. Mais lui il visait. Alors quand il y a un peintre ou un docteur à dîner à la maison, je leur demande de regarder ce que c'est qu'un homme qui contrôle ses gestes, qui peut être un volcan dévoré de toutes les passions, mais qui établit un ordre tel. Santa Barbara, je vois sur le pupitre une des pages de la dernière version de la danse sacrale. Oh ! Je dis, quelle splendeur, quelle copie.
Il faut que je recommence.
Vous voulez changer quelque chose ?
Non, toucher.
Je ne touche pas les manuscrits, je les regarde.
Toucher quand même.
Il y a un endroit où il a gratté. Le papier est un peu abîmé.
Il a recopié toute la page. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire?
C'est toute la question. Il ne dit jamais qu'est-ce que ça peut me faire. La page de carte de la Symphonie des Psaumes, vous l'avez eue?
Non, jamais.
Ça lui a coûté plus de travail que tout le travail de copie de toute la partition. Parce qu'il voulait trouver le moyen de dire que l'œuvre était dédiée au Boston Symphony, mais qu'elle était écrite à la gloire de Dieu.
Parce qu'on n'écrit pas une symphonie des psaumes pour le Boston Symphony Orchestra. On lui donne l'occasion de la jouer. On ne fait pas cette confusion.
Il disait surtout que la musique n'exprime rien.
Il n'aime pas la familiarité. Il nous laisse à la porte.
Il n'y a pas de sentiment.
On peut fermer une porte parce qu'on a besoin d'un certain isolement, mais aussi pour éviter les courants d'air. Il y a une chose que je n'ai jamais pu faire. Et nous étions profondément liés. C'est de lui écrire « Mon cher Igor ». Je trouvais ça familier. Je trouvais ça petit. Un jour, il était en train de m'expliquer qu'il avait acheté ses chemises chez Lanvin avec telle et telle forme de col et de manche.
Je dis quand je pense que vous avez exercé une influence sur le monde entier et que vous êtes là en train de me parler de vos chemises.
Je ne m'en rends pas compte du tout. Je sais seulement combien il est difficile d'essayer de faire ce que je voudrais.
D'essayer de faire ce que je voudrais. Nous étions à la terrasse, à un restaurant à Venise. Un groupe de mouettes s'envole. Il dit, il y en a une qui a une patte cassée. Moi, j'avais rien vu. Lui, il passait son temps à voir. Voir. Stravinsky, devant sa mère, je ne peux pas imaginer quelque chose de plus émouvant. Debout, les talons joints avec le bruit caractéristique, paf, clac, ça claquait. Et si elle ne lui demandait pas de s'asseoir, il restait debout. Il devait avoir environ 55 ans. Il était une gloire dans le monde entier, mais il restait debout.
Je sais seulement combien il est difficile d'essayer de faire ce que je voudrais. Elle a eu la folie Stravinsky, et puis elle a eu d'autres enthousiasmes. Elle avait des enthousiasmes. Elle a follement aimé Leonard Bernstein, qui n'a jamais été son élève, mais qu'elle a beaucoup cultivé. Elle admirait même sa musique.
Noélie.
Elle pouvait être très désagréable. Quand elle n'aimait pas quelqu'un, elle lui tournait le dos. Elle faisait très vieille fille, beaucoup s'en moquaient. Ça me paraissait un peu inintéressant, ces thés du mercredi rue de Ballu.
Il me paraît mystérieux d'être né. Quand quelque chose s'achève, car je vais bientôt mourir, on se dit, il va falloir quand même y voir clair.
Elle demandait souvent à ses élèves comment ça sonne. Si vous preniez le pouce plutôt que le deuxième ou troisième doigt, cela sonnerait mieux. Elle avait beaucoup d'idées pour faire sonner les choses. De la musique, avant toute chose, et pour cela choisit l'impair plus liquide et soluble dans l'air.
Verlaine.
Elle connaissait Paul Valéry, plus tard Saint John Perse. Le matériel de la musique. Il fallait qu'une note soit choisie par le compositeur, par son oreille, la conscience de son oreille. Elle disait toujours qu'il devait y avoir dissonance pour qu'il y ait consonance, et que si cette dernière ne pouvait être opposée à la première, elle se trouvait annulée. En même temps, elle entourait ses élèves de confiance. On avait confiance en soi. Elle avait une manière de faire croire à chaque élève que c'était lui le chouchou, son préféré. C'est très fort. On sortait de façon particulière, complètement exaltée. Elle demandait à l'étudiant mieux. Elle lui ordonnait d'avoir confiance en lui-même. Elle savait comment le stimuler, comment sortir de lui le meilleur. Elle était monarchiste. Nous, les Américains, nous étions plutôt agacés, mais on laissait faire, nous n'étions pas là pour discuter. Elle n'était pas féministe, non plus, pas du tout.
Le souvenir que je garde, c'est qu'elle était insupportable, souvent, et que j'avais envie de l'assassiner. Et puis ensuite, je me disais, j'ai bien fait de ne pas l'assassiner, parce que les jours où elle était merveilleuse. Mais les jours où elle était insupportable, pour des questions de répétition, par exemple, celles qui précédaient les enregistrements des Monteverdi, où elle prétendait que nous chantions tous faux. Je ne veux pas m'humilier devant les ingénieurs du son dans un studio avec vous tous qui chantez faux. Ou pour des questions de cachotterie, enfin toutes sortes de choses. Alors là, vraiment, elle était insupportable. Mais d'ailleurs, un jour, j'ai dit à un de ses élèves, qui ne la connaissait pas, qui me demandait avec inquiétude, comment est Nadia Boulanger ? Je lui ai dit que chaque fois que j'allais la voir, j'emportais avec moi un couteau de cuisine pour l'égorger.
Je voudrais ici parler de moi.
Doda Conrad.
Comme on le sait, comme on ne le sait pas, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un musicien. J'ai pu faire illusion pour certains, mais je doute que Nadia ait été dupe. Elle a eu la gentillesse de me faire croire qu'elle l'était. Et notre amitié s'est développée dans ce petit jeu qu'elle a bien voulu jouer avec moi pendant près d'un demi-siècle.
je n'ai pas non plus été un de ses élèves au sens propre du mot. J'ai subi son influence. Et j'ai profité de son enseignement peut-être davantage que d'autres. Tout en ne comprenant pas spécifiquement ce qui en faisait la valeur. Tout au long de ses souvenirs, j'ai été frustré de ne pouvoir expliquer dans des termes appropriés, techniques, ce qui faisait la grandeur de la mission que Nadia Boulanger a remplie tout au long de sa vie.
Tout passe si vite. Je n'ai pas 5, 10, 40 ans. Je n'ai pas 80 ans. Je suis tout cela à la fois. Et ce qui se passe aujourd'hui éclaire ce que j'ai ressenti à l'âge de 5 ou 10 ans.
La dernière fois que je rends visite à Nadia Boulanger est le jour de son dernier anniversaire. Je doute qu'elle soit consciente du fait qu'il s'agit de son anniversaire, car elle est dans le coma. Mais la nature, elle, semble s'en souvenir, en parant cette occasion d'un radieux dimanche de septembre, inoubliablement beau, où un ciel gorgé de bleu le dispute en intensité au jardin saturé de vert de Fontainebleau. L'air est frémissant. Ce jour-là, tout semble avoir conspiré pour me pousser à aller jusqu'à Fontainebleau. C'est mon seul jour de relâche au cours d'un séjour de travail de 3 semaines à Paris. Il y a ce temps resplendissant. Enfin, je sais de manière certaine que c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de passer quelques instants avec elle. D'un autre côté, de fortes contre-indications n'ont pas manqué de m'être adressées par un entourage dévoué et protecteur. Une visite a toutes les chances de fatiguer mademoiselle et de troubler son repos. Elle n'est pas en état de parler ni de vous reconnaître. Qu'importe. Comme poussé par un instinct irrésistible, je lui rends visite. Je suis introduit dans sa chambre par l'angélique mademoiselle Dieudonné, qui, anxieuse, l'index pointé sur les lèvres et assistée d'une infirmière, me chuchote un ordre strict. Pas plus de 10 minutes. Ma visite va durer près d'une heure. Nadia est belle. Nadia, dans sa toilette impeccable, parée pour le cercueil, ses yeux et ses lèvres sont clos dans un coma qui envahit tout son visage. Je m'agenouille près de son lit.
Qui est là?
Dans ma stupéfaction, je n'ose pas répondre. Je me risque enfin à parler. C'est Léni. Léonard. Silence. A-t-elle entendu? A-t-elle compris?
Cher Léni.
Elle sait. Instant miraculeux. Chère Nadia, comment vous sentez-vous?
Tellement forte.
Vous voulez dire intérieurement?
Oui.
Je comprends bien. Je pars. Vous devez être fatiguée.
Ne partez pas, pas de fatigue.
Vous entendez de la musique dans votre tête?
Tout le temps. Tout le temps.
Et qu'est-ce que vous entendez en ce moment? Mozart?
Monteverdi, Bach, Stravinsky, Ravel.
Une musique, ni commencement, ni fin.
Et 36 rue Ballu, une pièce de Catherine Rétoré, qui était accompagnée par Philippe Catoire, Pierre Jacquemont et au piano Françoise Tillard. Nous étions en direct du théâtre de la Criée, où cette pièce est représentée jusqu'au 14 février. Merci à Dr Zoom pour les sélections musicales du plateau qui avait précédé cette représentation de théâtre. Merci aussi à Tony Regnault qui a assuré la technique de cette émission. Prochain rendez-vous du Cabaret Crié, c'est le 19 mars, autour des chansons de Bertolt Brecht. Restez à l'écoute de La Grenouille dans quelques instants, à 22h, la suite de nos programmes avec The Brain.
It's a smooth and quiet and wonderful and fresh and clean.
A tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way. I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue with not a single thing to do. She went a peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A basket. I lost my yellow basket. And if that girlie don't return, I don't know what I'll do. Oh gee, I wonder where my basket can be.
Lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Make me